Bible, en Romains, et Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Alors, je croyais qu'on était au chapitre 8, on arrivait à la fin du chapitre 8. Ben, en effet, mais la suite de la thèse que développe l'apôtre Paul, eh bien, la suite, c'est au chapitre 12. Entre les chapitres 9 à 11, finalement, c'est une digression. L'apôtre Paul part sur un autre sujet. Certainement qu'il a senti que certains lui posent la question après tout ce qu'il a dit. Il me dit, mais alors, qu'est-ce qui arrive aux enfants d'Israël? Qu'est-ce qui va leur arriver? Que deviendront-ils? Et alors, justement, là, il a une parenthèse qu'il ouvre et puis qu'il referme, qu'il ouvre au chapitre 9 et qu'il referme au chapitre 11, où il parle de ce qui attend encore les enfants d'Israël. Donc c'est un thème qu'on pourra prendre à part, mais et c'est un peu spécial la manière dont il gère et il travaille. La souveraineté de Dieu a été exprimée autrement avec Israël, parce que c'était un peuple qu'il a choisi et qui à tout prix devait le préserver pour que nous ayons un sauveur. Dieu intervient dans l'histoire d'Israël de manière, parfois il s'impose, pour nous assurer un sauveur. Mais même dans l'Ancien Testament, c'était toujours vrai, le salut était par la foi. Et Abraham a été justifié parce qu'il a cru, Paul a été justifié parce qu'il a cru. Donc ce principe reste toujours. Nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, il a dit tous ont participé à la manne, tous ont bu de l'eau, mais tous n'ont pas été sauvés. Donc il y a une bénédiction générale qui était là sur les enfants d'Israël, mais après il y a ceux qui ont cru, qui ont été vraiment sauvés. Et le principe reste le même. Et même aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un christianisme et tous ceux qui sont dans le christianisme jouissent de certaines choses que le Seigneur pourvoit. Mais ensuite, il est indispensable que chacun fasse cette démarche personnelle de croire et de venir à la croix, mais pour lui. Il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même pensée. Et c'est grâce à l'Ancien Testament qu'on comprend mieux le Nouveau. Et c'est grâce au nouveau qu'on comprend mieux l'ancien. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les Juifs peuvent accéder au salut de la même manière que le païen. Donc, à titre individuel. Pas en tant que peuple, mais à titre individuel. Mais Dieu a encore des choses en réserve pour le peuple d'Israël. Et c'est là où la fin du chapitre 11 de Romains, eh bien, il nous dit, ben, justement, Dieu ne les abandonne pas, il ne les oublie pas. Ils sont rassurés et nous sommes rassurés. Mais la suite de Romains 1 à 8, la suite c'est le chapitre 12. Le 1 à 8 c'était assez doctrinal. Ici à partir du 12 c'est la mise en pratique dans la vie quotidienne de l'enfant de Dieu. Donc je vais lire les premiers 8 versets du chapitre 12. Il dit « Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un même seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous ensemble membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ce matin, nous allons nous rester avec le verset 1. L'apôtre Paul s'adresse aux frères et dit « Je vous exhorte donc frères ». Et quand il parle de frères, là, il parle de ceux qui sont dans la foi, hein, donc selon la définition qu'il a donnée dans le chapitre 8, hein, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont été adoptés, qui sont enfants de Dieu. C'est vrai qu'il utilise au chapitre 9, quand il s'adresse aux enfants d'Israël, il parle de frères, mais là il parle d'un titre national, hein, donc les frères juifs. Mais ici, il s'adresse aux croyants, hein, ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et donc là, il nous exhorte, il va nous commencer cette exhortation où il nous dit, écoutez, Dieu a préparé un plan de salut extraordinaire, hein, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, le salut gratuit pour quiconque le désire et le demande. Et puis maintenant, il dit, ben, maintenant, il faut le vivre. Et ça peut paraître un peu bizarre, hein, quand je lis, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. » On aurait dit, nous, si on avait dit, on se dit « Mais j'offre à Dieu mon cœur, j'offre mes affections, je lui offre mes pensées. » Mais il commence par le corps, et ça nous fait bizarre, parce que pour nous, le corps, et malheureusement, le christianisme a un peu communiqué cela, c'est que le corps, c'est sale, et puis le cœur, c'est pour Dieu. Mais non, non, Jésus-Christ, quand il est venu, il est mort sur la croix, il a dit « Je suis mort pour l'homme tout entier, corps, âme et esprit ». C'est pour cela qu'on parle d'une résurrection, parce qu'il a dit « Oui, quand tu meurs, l'âme va auprès de Dieu, mais je reviendrai prendre le corps hein, ». Le corps est important. Et donc là, il nous parle du corps et il dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Paul, bien sûr, il est poussé par l'Esprit de Dieu et il suggère l'offrande de notre corps qui serait un culte. Un culte, c'est-à-dire, c'est quelque chose pour adorer Dieu. Hein. C'est un moment où on se donne, on se consacre, on exprime notre attachement, notre adoration. Et dit, offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un culte raisonnable, il termine le verset avec, un culte raisonnable. Et puis en même temps, vous êtes là, vous êtes en train de penser, parce que peut-être vous avez des connaissances de la parole, et vous pensez à Jésus quand il a parlé à la femme samaritaine, et il lui dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité ». Il dit « Ah, Jésus a dit que c'est en esprit qu'on adore ». Et puis ici l'apôtre Paul dit « Mais c'est avec le corps, l'offrande du corps que tu adores ». Et n'oublions pas que quand même le corps est notre moyen d'expression. Hein, c'est notre corps, c'est le seul moyen que nous avons d'exprimer ce que nous avons à l'intérieur. Et donc, si c'est par le corps que nous allons exprimer des choses à Dieu, eh bien, il faut que les choses à l'intérieur soient en ordre et bien disposées. Et c'est au travers de notre corps, hein, c'est là que l'apôtre Paul dit, il était, si au travers de votre corps que vous avez exprimé dans ce monde tout ce que Dieu a fait pour vous, dans les chapitres 1 à 8. Hein, vous étiez pécheur, il vous a sauvé, il vous a pardonné, il vous a justifié. Et bien maintenant, c'est au travers de votre corps que vous allez le vivre et l'exprimer. Et donc, il devient très pratique. Donc, toutes les vérités qu'on a découvertes dans les premiers 8 chapitres de Romains, eh bien, maintenant, ils disent qu'il faut les vivre. Et là, il y a trois plans ou trois niveaux sur lesquels on peut vivre notre vie chrétienne. On peut vivre une vie chrétienne sur le plan ou sur le niveau de naissance. Et, vous savez, nos cinq sens, hein, c'est la manière que nous avons pour ressentir l'extérieur et que l'intérieur puisse s'exprimer, c'est, les sens sont là. Ou bien il y a aussi la possibilité de vivre sur le plan de notre âme, l'âme ou le psyché hein, en grec. L'âme, c'est notre, la partie invisible qui est en nous et on peut vivre des choses à partir de notre âme. Hein, et c'est très courant. Et puis aussi, mais il nous dit aussi, il y a au niveau de l'esprit. L'esprit de l'homme, car l'homme est corps, âme et esprit, et l'esprit qui est là et qui est en nous, hein, c'est l'esprit, eh bien, c'est ce qui nous donne cette dimension spirituelle. Hein. Je vais aller assez rapidement là, mais je pourrais un peu exprimer les pensées. Vivre la vie chrétienne selon nos sens. Ça veut dire que vivre selon nos sens, vivre la vie chrétienne, ça veut dire qu'on est gouverné par nos sens. C'est les sens qui gèrent un peu notre vie chrétienne. Vous avez déjà rencontré ceux qui marquent une pause dans ce qu'ils doivent faire parce qu'il fait trop chaud. Puis, oui, je sais que je dois faire, mais bon, il fait chaud. Parce que je suis fatigué. Ou bien, c'est pas confortable. Tout ça, c'est les sens, hein. C'est les sens qui sont là et qui finalement m'arrêtent et influent sur ma manière de vivre ce que je sais que je dois vivre pour Dieu. Il y a ceux qui s'arrêtent dans leur marche parce que ça ne sent pas bon. Le Seigneur nous dit d'aller, et puis après on s'approche. Et tu croyais que ça sentait bon quand le Seigneur est venu sur terre, hein, le péché de la race humaine. Mais il est venu quand même. Y en a qui disent « Ah ben, je ne supporte pas ce que je vois. » Non. Et il y en a d'autres qui disent « Ah, ça, j'ai mal, je ne peux pas. » Et parfois, on cesse de pratiquer ce que Dieu demande de nous par suite à des réactions négatives provenant de nos sens. Hein, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je m'en touchais, tout ça, et ça influe sur ma manière de vivre la vie chrétienne. Eh bien, si c'est le cas, eh bien, je suis en train de vivre ma vie chrétienne selon les sens. C'est pas moi qui soit au-dessus, qui contrôle les sens, c'est les sens qui me dominent. Et c'est très difficile parce que nous vivons dans une société qui nous encourage à vivre selon nos sens. Hein, on entend tout le temps l'expression « si ça te plaît ». Si tu en as envie, si tu aimes ça, si ça te chante, hein, vas-y. Comme si c'est ce que je ressens qui décide de la vie, de ce que je fais pas. J'aime pas, ça me plaît pas. Hier ça me plaisait, mais aujourd'hui ça me plaît plus. Et puis c'est une drôle de vie, hein. Et c'est des gens qui sont en souffrance en général. Et c'est les sens qui contrôlent. Vous savez, les élèves qui se laissent conduire par leur sens, eh bien, en général, ils n'ont pas de diplôme hein, quand ils arrivent à 17 ans. Déjà, leur sens, déjà, ils ne sortiraient pas du lit le matin. Hein. C'est rare, on a envie de sortir du lit le matin pour aller à l'école. On ne peut pas se laisser conduire par nos sens. Et un enfant de Dieu, s'il n'assiste pas à une étude biblique parce qu'il fait trop chaud, parce que... et puis alors là il dit ben, c'est le fait que j'ai chaud, mon confort c'est plus important que ce que je peux apporter aux autres frères par ma communion, par mon partage, par mon soutien et ça change tout là, je donne beaucoup d'importance à mon petit confort par rapport à ce que je peux apporter comme œuvre spirituelle et partage spirituel avec les frères et sœurs et donc je suis en train de vivre selon les sens, c'est les sens qui décident tout et beaucoup de chrétiens vivent de cette manière-là. On est en train de vivre la vie chrétienne, mais sur le niveau le plus bas qui soit, tout en paraissant comme de bons pratiquants. Oh, oui, j'aime le Seigneur, je chante, bon, tant que c'est pas trop, les chaises sont pas inconfortables, tant que le pasteur il est pas trop long, si on peut se fatiguer, ça fait mal. Mais bon, il y a un certain niveau de vie chrétienne qu'on arrive à vivre, hein, et on peut être, il y a une joie, hein, c'est mieux que pas connaître le Seigneur, c'est sûr. Mais c'est un chrétien qui est bloqué parce que l'essence, ça va jusqu'à un certain point. Hein, il est bloqué sur ce plateau-là, il ne peut pas monter plus haut. Vous savez, tout à l'heure, on a célébré la table du Seigneur, hein, mais dans le 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit à ses Corinthiens, il dit au verset 20, il dit « Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, mais quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Il dit, vous, toute apparence extérieure, vous êtes en train de célébrer la table du Seigneur. Mais en réalité, vous êtes en train de mettre vos propres désirs en premier, vous êtes en train de vous préférer manger, et vous oubliez les autres. Et vous ne vous rendez même pas compte que l'autre a faim, tellement je suis centré sur moi-même. Et ça, c'était des chrétiens, c'est des chrétiens de Corinthe, mais tellement par leur sens, eh bien, ils pouvaient négliger, ils devenaient égoïstes, ils devenaient centrés sur eux-mêmes, et l'apôtre Paul dit non, ça ne va pas ça. Ça ne va pas. Et pourtant, ils sont en train de. C'est une agape de l'Église. C'est un repas qu'on prend ensemble pour la communion. Et finalement, il n'y a aucune communion. Et c'est possible de tomber dans ce piège-là. Donc, et ensuite, il y a un autre niveau, c'est en fonction de l'âme, hein, c'est de vivre en fonction de l'âme. Quand on parle de l'âme, eh bien, c'est l'âme, c'est là où c'est le siège de notre intelligence, c'est là où il y a nos émotions, il y a notre volonté. Et c'est vrai que c'est possible de vivre une vie chrétienne à ce niveau-là, hein, par notre intelligence, par notre volonté, par nos sentiments. L'intelligence, une personne qui se sert de son intelligence, elle étudie la Bible, elle a de grandes connaissances, elle accumule de grandes connaissances de la parole, elle sait beaucoup de choses, elle parle comme... Mais c'est des connaissances intellectuelles. Ah oui, c'est la Bible. Moi, je me souviens, j'avais en région parisienne, j'avais rencontré un, il m'étonnait la manière dont il connaissait la Bible. Ah, c'était extraordinaire, tu lui poses la question de n'importe où, il pouvait citer le verset. Mais un peu plus tard, j'étais en justice et il se faisait arrêter parce qu'il volait. Elle dit, c'est pas très utile, toute sa connaissance, elle ne lui a rien apporté. Hein, sa vie, oui, mais il vivait la connaissance. Et puis il avait de ses prières, mais c'était de la composition extraordinaire. Hein, il avait des belles prières. Mais en fait, il vivait au niveau de l'intelligence. Et ça n'allait pas plus loin. Après, c'est possible de dire bon, je vais me discipliner. Vous savez, chaque église a ses petites habitudes, ses petits trucs, hein, qu'on fait. Bon, je vais m'adapter. Voilà, ils font comme ça. Ils baissent la tête, ils lèvent la tête, ils se lèvent debout. On apprend à la culture de chaque église. Hein, là, une, on peut pas. Même ici, on en a. Hein, mais tu te conformes. Tu te disciplines, donc la volonté, hein, tu te disciplines, et puis tu peux paraître aussi bien que les autres. Hein, de toute apparence, vous savez, les dimanches matins, on est tous des saints. Et on peut se discipliner, et on peut vivre. Et les gens qui nous voient uniquement à l'église, ils disent, oh, ça c'est un beau chrétien, ça. Bon, après, c'est les enfants à la maison, et peut-être ils pensent autre chose, ou bien l'épouse pense autre chose, ou bien les collègues au travail disent oh, « Moi, je ne me rendais pas compte qu'il était chrétien. » C'est autre chose. Et avec l'intelligence, on peut avoir des connaissances, on a des réponses à tout. On peut avoir une discipline, avec une volonté un peu forte. Ou bien les sentiments, hein, il y en a qui disent, oui, ben, j'aime bien, parce que surtout s'il y en a une église où un peu, il y a un peu d'ambiance et tout ça, ben, ça répond bien aux sentiments, aux émotions, et puis ça entraîne, et puis je me sens emporté, et je ressens des choses. Tout ça, c'est pas mal, mais s'il n'y a que ça, c'est un plateau. Et on ne peut pas monter plus haut. Et finalement, on est en train de vivre la vie chrétienne comme les gens autour de nous vivent leur religion. Hein, y a des gens qui sont vraiment, dedans. Hein. Quelle que soit leur religion, il y en a qui sont vraiment là-dedans et finalement, ça, on voit une vie ils sont sérieux, ils sont honnêtes, ils sont généreux. Parfois, on trouve des gens des autres religions non chrétiennes qui sont plus gentils que des chrétiens. Hein, mais c'est parce que il y a des chrétiens qui sont arrêtés sur un certain plateau. Hein, et cette terrasse, ben c'est pas mal. Hein, moi, je suis quand même là, hein, je suis pas en haut, en bas. Et puis, ils sont contents d'eux. Eh bien, ça, il n'y a pas. Le Seigneur, il a dit tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Je vais te vomir de ma bouche. Si j'aime pas ça. Il veut ou des chrétiens qui ne prétendent pas être chrétiens. Ils se mélangent au monde et on ne les voit plus. Donc ça ne porte pas déshonneur au Seigneur. Ou bien des chrétiens qui sont vraiment ardents. Ça apporte de la gloire au Seigneur. Mais les chrétiens mi-chaud, mi-froid, ça, c'est. Le Seigneur a dit, c'est pas agréable. Donc, l'homme perdu, hein, on peut être. Finalement, on peut se faire avec son intelligence, sa volonté, avec ses émotions. Finalement, on peut se retrouver dans une église et puis vraiment rentrer là-dedans sans avoir jamais reçu le Seigneur, même, c'est possible. Hein, l'âme, l'homme pécheur, il a une âme. Et il peut faire, et il peut cadrer, il peut rentrer, il peut imiter. L'être humain, hein, on emploie, hein, on a un tel verbe que singer, hein, mais c'est parce qu'on sait le faire. En fait, tout ce qu'on a appris, c'est en copiant quelqu'un d'autre. Et on sait le faire, et on peut copier les chrétiens. Et on apprend le langage, comme disent chez les pasteurs, le langage de Canaan, hein, le patois évangélique. On l'apprend, on sait composer une prière, on apprend la musique des chants, donc on chante avec les autres, et puis ensuite, et on peut vraiment, et finalement, il n'y a rien. Hein, ça, on peut le faire dans les religions, mais pas dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Christ, lui, il dit, non, je veux que vous viviez par l'Esprit. Vous avez un Esprit. Cet Esprit, il y a quelques semaines, j'avais dit, c'était un peu comme la fenêtre qui permet de voir Dieu. Hein. La nouvelle naissance, eh bien, finalement, c'est la vie que Dieu donne à l'Esprit. Hein, parce que c'est lorsqu'il nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 1, hein, il dit « Nous étions morts dans nos péchés, nos offenses ». C'est à un niveau, c'est pas physiquement qu'on était morts, c'est même pas au niveau de notre âme. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, et qui sont très intelligents, et qui peuvent écrire, composer des musiques extraordinaires, et qui peuvent faire de belles choses. Hein. Ils ne sont pas morts au niveau de l'âme. Et pas physiquement, parce qu'on peut avoir un médecin athée qui nous soigne bien. Hein. C'est pas physiquement non plus. Mais c'est au niveau de l'esprit. L'esprit, c'est cette petite connexion qu'on peut avoir avec Dieu, qui permet à l'homme d'être connecté avec Dieu. Et si là, il n'y a pas de prise, il n'y a rien. Hein, mais lorsque nous venons à la croix de Christ, tout à l'heure on parlait de venir à la croix de Christ, et lorsque là, on commence et on demande à Dieu de pardonner nos péchés par le sang versé de Christ, à ce moment-là, tout d'un coup, il y a le contact qui se fait, ça s'appelle la nouvelle naissance, il y a le contact, et notre esprit est vivifié, et il rentre en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit, on l'a déjà vu dans Romains chapitre 8, verset 16, il dit « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il commence à avoir un échange. C'est par l'Esprit que nous crions « Abba, Père hein, !» Donc ça va dans les deux sens. Il y a échange, mais par le biais de notre esprit avec l'Esprit de Dieu, et tout d'un coup, on est connecté au ciel. Et l'Esprit de Dieu veut remplir, hein, il nous dit ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Tout comme le vin, si on en prend assez, peut prendre possession du corps et imposer un comportement qui n'est peut-être pas naturel, et bien de même, lorsque l'Esprit de Dieu prend possession de nous, et bien nous avons un comportement qui distingue des autres. Et donc, il veut, hein, le Saint-Esprit veut pouvoir avoir une influence dans notre esprit. Notre esprit, ensuite, a une influence sur notre âme. Hein, celui qui est vraiment spirituellement est en rapport avec Dieu, bien, dans son âme, il va commencer à penser autrement. Dans son intelligence, et le verset 2, on le verra, Romains 12, verset 2, il parlait de renouvellement de l'intelligence. Ça va commencer à influer sur l'intelligence, on a une autre volonté, les sentiments qu'on ressent, les émotions qu'on sent, on commence à aimer les gens qu'on n'aimait pas avant, ça change tout. Mais c'est parce que c'est spirituel, et ça retombe dans l'âme, et bien sûr après le corps, il ne fait qu'exprimer ce qui se passe. Hein, et c'est ça, et en fait, la vie chrétienne, c'est l'expression de cette œuvre de Dieu sur l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme, et le corps, et donc, voilà. C'est, dites, bon, Steve, c'est un peu compliqué tout ça. Oui, mais ça se fait tout seul. Mais la question, c'est, d'abord, je commence avec Dieu, et je laisse spirituellement qu'il fasse une œuvre. Je dis, mais Steve, alors comment est-ce que je peux savoir où j'en suis, qu'est-ce que c'est, et si je le fais, c'est du vrai ou c'est copie. Eh bien, la parole de Dieu est la seule qui est capable de discerner. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous parle justement de la parole de Dieu. Et il nous dit qu'elle est, elle est comme une épée. À deux tranchants. Donc, il dit, chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Dieu peut distinguer. Nous, on a du mal à distinguer, mais lui, la parole de Dieu peut distinguer. Il dit, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, hein, ce qu'il y a de plus profond dans notre être, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et donc, c'est vrai, vous dites, mais bon, c'est aussi vrai que le temps a agi. Hein. Vous savez, le faux, il n'aime pas le temps. Parce que le faux, il apparaît toujours, éventuellement. Gardez Hébreux 4, là, et puis regardez avec moi dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Et c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'être un faux chrétien, parce qu'éventuellement, ça sort, hein, n'importe comment. 1 Timothée chapitre 5, et les versets 24 et 25. Verset 24 dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Il a dit, c'est visible. Le gars, il s'est mis en colère et puis il a jeté des chaises dans tous les sens. Bon, c'est visible. Hein, c'est... Mais il y en a d'autres hein, qui sont la même colère, mais qui ne montrent rien. Hein, donc il dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il dit, de même, les bonnes œuvres sont manifestes. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. C'est vrai que le temps, éventuellement, fait ressortir le faux. Mais, et en plus, avec la parole, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour ça que je suis très attaché, c'est pour ça que le pupitre où on fait l'enseignement est au milieu. Parce que l'importance de la parole, c'est parce que là, tout est déterminé. Parce que la parole de Dieu, elle pénètre et elle fait ce qu'elle a à faire dans le cœur de chacun. Et elle commence par moi, hein, avant vous. Mais cette parole, elle est là. Je reviens à Hébreux 4, verset 12. Donc il nous dit que cette parole, eh bien, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le mot juger, là, c'est dans le grec, c'est le mot kritikos, duquel on a le mot français critiquer. Hein. On n'aime pas, on n'aime pas ce mot critiquer. Mais en fait, il a dit, c'est dans le sens, c'est critiquer, c'est dans le sens de discerner. Hein. Quand je fais la critique, je suis en train d'analyser et je fais ressortir. Ça peut être positif, ça peut être négatif, hein, mais il dit, la parole de Dieu peut pénétrer et critiquer ou discerner les pensées et les sentiments du cœur. Il les fait ressortir, il les fait paraître. Et donc là, les pensées et les sentiments, les pensées c'est l'âme, les sentiments c'est l'âme, et ce qui était là au niveau de l'être humain, et qui est la copie de l'imitation, tout ça, et bien éventuellement la parole de Dieu, elle va agir là. Soit on monte plus haut, on cherche à aller plus haut, soit on disparaît. Et en fait, et ce mot kritikos, hein, qui est utilisé ici, c'est le seul endroit dans la Bible qui est utilisé. C'est le mot qui est utilisé pour la parole de Dieu. C'est pas dans le sens de juger, dans le sens où on trouve le mot juger ailleurs, mais le mot kritikos, il est utilisé seulement ici, il se trouve seulement là. Et c'est au niveau de la parole qui pénètre, qui est là pour évaluer, non pas pour condamner, mais pour faire paraître. Faire paraître le vrai du faux. Et donc, après tout, il dit, mais bon, comment je fais? Eh bien, David, dans son psaume 119, verset 11, vous savez, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Finalement, je peux avoir des soupçons de où je pourrais être, vu ce qui est, comment les choses, ma vie, elle est menée, par qu'est-ce qui dirige ma vie. Est-ce que c'est ce que la Bible demande de moi, donc je le fais, ou est-ce que c'est un peu en fonction, mais moi, j'aime pas trop ça, moi je suis pas de ce tempérament-là, moi c'est un peu dur, et puis c'est... Alors ça c'est autre chose, hein, je suis en train de vivre à un autre niveau. Ou bien, alors c'est fatigant, c'est pas intéressant, c'est un autre niveau. Mais quand c'est la parole le dit, donc que je le fais, ça je suis en train de, je me mets à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui se sert de la parole. Je sers ta parole dans mon cœur, c'est-à-dire que j'emmagasine pas dans mon intelligence, mais dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il dit, et même l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, celui qui est né de la chair est chair. Non, c'est Jean 3, 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a deux niveaux, je suis né de la chair, et donc je suis chair, et je ne peux pas faire autrement. Mais si je suis né de l'Esprit de Dieu, eh bien alors, c'est l'Esprit de Dieu qui doit agir. Et dans 1 Corinthiens 15, donc, et quand il parle de la résurrection, il parle du corps, il dit, il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel. Peut-être d'autres traductions vous disent, il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. Mais le mot naturel ou animal traduit, en fait, c'est justement le mot grec psychikos, donc selon l'âme. Il dit, en fait, pour Dieu, il y a ce qui est dirigé par l'âme, le corps ne fait qu'exprimer. Donc je vis selon l'âme, le corps ne fait qu'exprimer le fait que je vive selon l'âme. Ou bien je vis selon l'esprit, et alors le corps, il exprime ce que je vis selon l'esprit. Il dit donc, il y a ce qui est naturel, psychikos, et puis après le corps spirituel, il dit pneumatikos, c'est-à-dire spirituel, esprit. Hein. Pneuma, c'est l'esprit. Et donc, il dit, donc voilà. Et l'apôtre Paul, donc, il revient, hein, comme je dis, donc la seule manière de vraiment adorer Dieu, il nous dit, c'est lorsque c'est arrivé jusqu'au point que c'est le corps qui l'exprime. Hein, c'est une œuvre spirituelle qui agit, qui transforme, la prochaine fois on verra le verset 2, le renouvellement de l'intelligence, et transforme cela en manière d'agir, et transforme la personne, et le corps, eh bien, se comporte autrement. C'est tout. C'est pas une question de « Ah ben moi, depuis toujours, je suis coléreux » ou « Depuis toujours, je suis... » Non, mais eh bien, c'est bon, peu importe ce que tu étais avant. Mais maintenant, tu dois être le produit de l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, et qui transforme la personne. Et on devrait, je reste avec cet exemple de la colère, parce que c'est toujours assez visible hein, dans son expression, mais il dit, ce qu'on devrait, une fois que tu es enfant de Dieu, que tu commences à vivre pour le Seigneur, eh bien personne ne peut deviner qu'avant, c'était naturel pour toi de te mettre en colère. Ça ne paraît plus, parce que ça a été remplacé, il y a une autre œuvre qui se fait. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Il dit, donc ton culte offre ton corps comme un sacrifice vivant. Seigneur, quand je meurs, je suis tout pour toi. Non, sacrifice vivant, maintenant, tu vis pour moi. Et c'est à travers de ton corps que tu vis pour moi. Il dit, non, mais c'est dans mon cœur, moi j'aime Dieu, c'est dans mon cœur, c'est sincère, lui connaît-moi, mon cœur. Ah ben écoute, tant que, si le corps n'exprime pas, il n'y a rien. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, je peux entendre ce qui sort. Il y a des gens qui prétendent une piété extraordinaire dans le fond de leur cœur. Mais le Seigneur, il dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. On observe et on voit où vit la personne. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu es à l'écoute de la parole de Dieu ? Eh bien, ça va se voir dans ta personne. Si tu es à l'écoute d'autres choses, eh bien, ça va paraître aussi. Le corps, il dit la vérité. Et donc, c'est à nous de vraiment et sérieusement. Il dit, donc, ce verset, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, vous qui avez bénéficié de ce pardon qui est en Jésus-Christ, eh bien, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une punition, il ne va rien vous tomber dessus, vous n'allez pas avoir tout d'un coup être malade, ça n'a rien, ça n'a aucun rapport, vous aurez le cancer si vous suivez. Non, ça n'a aucun rapport, ça c'est les difficultés de la vie et tout ça. Mais il dit vous allez faire, c'est volontaire. Ce que Dieu veut de nous, c'est volontaire. S'il avait voulu des robots, il nous aurait créé des robots. Et il était capable. Parce que les animaux, par exemple, il leur donne un instinct, ils font tous pareil. Il aurait pu le faire pour nous. Mais pour l'être humain, il ne l'a pas fait. Il a dit non, parce que j'aime une adoration qui est volontaire, qui vient du cœur. Bon, vous aviez un problème de cœur. Donc j'ai réglé ça. Christ est mort sur la croix pour vous régler le problème du cœur. Mais maintenant, ça devrait être bon maintenant. Et finalement, vous devrez pouvoir m'adorer et vivre pour moi comme j'ai toujours pensé était bon pour l'être humain. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire consacré, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas ce que je chante quand je vais à l'église, c'est ce que je vis tous les jours qui est le culte raisonnable. Que le Seigneur nous aide et que chacun de nous puissions nous situer. C'est pas une question de culpabiliser quelqu'un, c'est une question de... Parfois, on a besoin de regarder dans le miroir pour savoir s'il y a... que la cravate est tordue, qu'elle est de travers. C'est heureusement qu'il y a le miroir, parce que sinon, je ne le vois pas. Eh bien, pareillement, dans notre vie chrétienne, des fois, il y a quelque chose qui est un peu de travers ou qui a été déplacé, parce qu'on a été bousculé un peu dans la vie, et des fois, il y a l'ancien qui revient. Eh bien, on a besoin de revenir à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. C'est pas pour culpabiliser, c'est pour encourager. On a une réponse. Ne baissez pas les bras. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Je vais à quelques moments de silence, comme ça vous pouvez déjà faire quelques prières auprès du Seigneur par rapport à ce que vous avez entendu. Et puis ensuite, je prierai.